Direct en jeu, la radio insolite. J'aime les gens qui durent sur la longueur. J'aime les gens qui ont du talent et qui sont tellement trop discrets. Et là, oui, tu ne rêves pas. Je parle de toi, Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour et merci.
Écoute, c'est toujours un plaisir. Alors, comme on dit, et 1, et 2, et 3, c'est notre troisième rendez-vous depuis le lancement de la radio. Et c'est toujours un bonheur de voir qui tu es, ce que tu fais. Surtout que moi, tu me fais un peu rêver parce que on va faire un peu d'humour. Tu es comme Sophie Adnauf, notre astronaute. C'est-à-dire que tu as carrément fait le tour du monde dans ta jeunesse.
Ah non, je pense que là, tu mélanges avec... C'est un homonyme.
Non.
Avec un autre Jean-Pierre Brouillot, et c'est lui qui a fait le tour du monde.
Ah bon ?
Et oui. Oui, il y a deux Jean-Pierre Brouillot.
Ah.
Et il y a parfois des confusions entre les deux, effectivement.
Ah ben oui, parce que là, je me suis pas cassé la tête, j'ai été sur Wikipédia, et j'ai trouvé Jean-Pierre Brouillot, écrivain voyageur, et je me suis dit...
Alors voilà, et ben il y a deux Jean-Pierre Brouillot sur Wikipédia, et ailleurs, il y a l'écrivain voyageur, que je connais pas personnellement, hein, mais qui a le même nom que moi, et qui est non-voyant et qui manifestement effectivement écrit des livres sur ses voyages, etc. Mmh. Et moi qui suis aussi sur Wikipédia, mais avec marqué, je ne sais plus, juste écrivain, et je suis écrivain, mais je n'ai pas spécialement voyagé. Mais je comprends, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion, il y a même parfois des... Ça m'est arrivé d'avoir déjà des articles avec un article sur moi et une photo de mon homonyme, ou l'inverse, enfin bon... Et sur Google, il y a effectivement plein de confusion parce que comme on est deux à porter le même nom et à écrire des livres, ça crée effectivement beaucoup de confusion.
Oui, surtout que là, tu es présenté comme un écrivain, auteur, compositeur, interprète, maître de conférences de droit, attention, l'université Lille 2, à l'université Paris-Est, Créteil, Val-de-Marne. Dis, quand on est maître de conférences de droit, qu'est-ce qu'on fait quand on est à monter sur une scène de théâtre alors ?
Bah, j'ai toujours eu deux activités, c'est-à-dire qu'effectivement... Dans le civil, on va dire, je suis enseignant, donc effectivement, j'enseigne le droit à l'université.
J'aime beaucoup cette notion dans le civil, si je veux
me permettre. Oui, voilà, hein, n'est-ce pas ? Mais j'ai toujours eu une activité d'écriture à côté. J'ai toujours écrit des chansons, des romans, du théâtre. Donc j'ai toujours cumulé ces deux activités, parce que les droits d'auteur ne suffisent pas forcément pour vivre, hélas. Mm-hmm. Donc j'ai une activité, on va dire, plus sérieuse. Mais l'activité qui me passionne vraiment, c'est évidemment l'écriture.
Et en
l'occurrence, la scène, puisque je suis monté sur scène effectivement pour ce spectacle que je joue en ce moment.
Attends, j'ai dû rêver. Tu as dit une activité plus sérieuse ?
Enseignant à l'université, ça c'est sérieux. En revanche, écrivain, artiste, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas sérieux, mais c'est en tout cas plus, comment dire, on est plus dans le rêve ou presque dans un monde parallèle, quoi. Ouais. Plus libre en tout cas, parce qu'enseignant, c'est quand même un métier.
Alors juste pour nous
n'importe quoi, alors que quand on écrit, on peut faire ce qu'on veut. Ouais.
Pour nous faire rêver, quand on fait une thèse de doctorat en droit privé, on est censé devenir quoi ? Avocat ?
Ben non, justement, c'est pour devenir enseignant. Quand on fait une thèse, c'est pour avoir un doctorat.
Il faut faire un doctorat.
Pour enseigner à l'université. Ouais. Mmh. Pour être avocat, il n'y a pas besoin de thèse. En revanche, effectivement, pour enseigner, il faut faire une thèse.
D'accord.
Et moi, je voulais me diriger vers ça, donc effectivement, j'ai fait ça. C'est des études longues, donc il faut s'armer de patience. Mais effectivement, c'est ce que j'avais envie de faire. Aussi, je dois dire, j'aime bien enseigner, et puis aussi, c'est vrai que le métier d'enseignant, je ne dis pas qu'on ne travaille pas beaucoup, mais en tout cas, ça laisse une liberté d'organisation, notamment enseignant à l'université, en termes de gestion de son temps, enfin, on est quand même assez libre. Donc, je ne sais pas si je pourrais avoir une vraie activité d'écriture si j'avais un emploi, on va dire, classique de bureau de 9h à 18h tous les jours. Ce serait plus difficile. Là, j'ai plus de liberté, donc ça permet effectivement d'avoir une vraie autre activité à côté. Ouais.
Alors, tu me fais retomber un peu en enfance, puisque ton inspiration pour ton premier roman, ça a été le tennis.
Absolument. Premier roman de publié en 2009, ça s'appelait « Je sais tes matchs ». Et je suis un grand, grand fan de tennis, et en particulier, j'étais un grand admirateur de Guillermo Vilas, qui était un grand joueur de tennis des années 70-80. Mmh. Et donc, mon premier roman était très autobiographique, puisque le point de départ, en tout cas, était très autobiographique. J'imaginais un type qui est totalement fan de Guillermo Vilas, mais qui devient fou. Donc après, ça devenait un vrai roman, puisque j'espère ne pas être fou, en tout cas pas complètement. Et le personnage du roman devenait fou. Mais c'est vrai que le tennis, jouer, qui est un sport que j'adore et que j'ai toujours pratiqué, m'a aussi donné l'inspiration pour mon premier roman. Le premier roman, c'est souvent assez autobiographique quand même, hein. C'est assez classique d'écrire un premier roman sur sa vie. Et effectivement, c'était le cas. Mais ça date déjà d'il y a 17 ans, mon Dieu. C'est... Le temps passe vite, je dis une banalité, mais...
Bah oui. Et alors, ce qui est bien, c'est que d'un côté, il y a le roman, et de l'autre côté, il y a un type pas très connu, qui s'appelle aussi Gérard Lenormand.
Oui, j'ai eu la chance d'écrire un texte sur le dernier album de Gérard Lenormand, qui est sorti il y a 3 ans. Parce que j'écrivais beaucoup de chansons dans ma jeunesse, puis j'avoue que ça fait un certain nombre d'années que j'ai arrêté. Mais là, j'avais écrit un texte, et je trouvais que ça lui correspondait bien. Donc, je lui avais envoyé comme ça, hein, par le biais de son site internet, ou je sais plus très bien. Et il m'avait répondu qu'il était en train de préparer un album et que le texte l'intéressait. Donc, effectivement, le texte figure sur son dernier album. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. On a des liens amicaux maintenant. Et c'est vraiment non seulement un très bon chanteur, mais également un type formidable.
D'accord. Et alors là, tranquillement, évidemment, dans une logique, tu arrives sur le Festival Off d'Avignon.
C'est ça. Donc, j'ai écrit et j'interprète un spectacle qui s'appelle 12, qui est un spectacle écrit entièrement en alexandrin. Et que j'ai interprété à Avignon l'année dernière, que là je vais rejouer à Paris à partir du 1er avril à la Comédie Saint-Michel, où je joue en gros en avril, mai, juin, je joue tous les mercredis soirs, et je repars pour Avignon effectivement à la Maison de la Parole, dans la même salle que l'an dernier. Donc c'est un spectacle qui s'est très bien passé à Avignon l'année dernière, et donc quand ça se passe bien, on a envie de continuer. Donc, donc effectivement, voilà, je refais Paris, Avignon, puis quelques dates de tournée aussi. Et c'est un vrai plaisir de monter moi-même sur scène, ce qui n'est pas mon métier a priori. Je suis pas comédien de formation, mais là, j'ai eu envie de défendre ce spectacle moi-même, qui est pas vraiment une pièce de théâtre, mais plutôt un monologue écrit entièrement en alexandrin et plutôt humoristique. Puisque j'essaye d'imaginer en gros ce que serait la vie si tout le monde parlait en alexandrin tout le temps. Donc j'imagine une vie de la naissance à la mort où on parlerait en alexandrin en permanence. Avec l'idée que la vie serait peut-être plus douce et peut-être aussi plus drôle.
D'accord. Il faut que tu me définisses ce que c'est que l'alexandrin.
Eh bien c'est un verre de 12 pieds. Voilà, d'où le titre 12 qui concentre en un mot le contenu du spectacle. Donc c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de poésie classique et donc beaucoup d'alexandrin. Et donc c'est un rythme que j'adore, cette musicalité du vers de 12 pieds. Et donc depuis longtemps, j'avais envie d'écrire quelque chose en alexandrin. Et j'ai eu un jour cette idée d'imaginer ce que serait la vie si, au lieu de parler, entre guillemets, normalement, on parlait tout le temps en alexandrin. Et c'est de là qu'est né ce spectacle.
On peut avoir une idée de ce que c'est que l'alexandrin ? Une phrase peut-être ?
Oui, bah, par exemple, si je vous donne un mini extrait du spectacle, j'essaye d'imaginer, par exemple, une femme qui quitte son mari. Mmh. Au lieu de le quitter en disant « je me barre », bon, elle le quitte en alexandrin. Et donc, en alexandrin, elle lui dit « Gérard, mon cher Gérard, je te trouvais si beau, si drôle, si brillant, tu étais mon flambeau, et je t'aurais suivi partout à en mourir si je n'avais fini par enfin découvrir à quel point tu es laid. » Stupide et emprunté. Aujourd'hui, je te laisse à ta médiocrité. Voilà, l'idée c'est que on dit la même chose de façon un peu plus élégante.
Oui, d'un côté, il y a 3 mots, de l'autre côté, il y en a un peu plus.
Alors, effectivement, l'alexandrin rallonge forcément la phrase, mais lui donne une sorte d'élégance. Donc, c'est un spectacle, bon, y a un peu toutes les émotions qui y passent, mais qui est quand même plutôt drôle, puisque justement, je mets. Dès qu'on essaye de mettre l'alexandrin dans la vie quotidienne, en fait, ça crée une sorte de décalage qui effectivement prête à rire. C'est vrai qu'on peut avoir l'image d'un alexandrin comme étant quelque chose d'extrêmement sérieux, solennel, voire un peu tragique. Hein, mais en fait, ça peut être aussi très drôle.
Il y a des écrivains connus qui ont fait de l'alexandrin ?
Bah, c'est en fait surtout des grands poètes et des grands dramaturges, donc en gros toute la poésie du 19e. Et puis dans le théâtre, bah Molière, il y a quand même un certain nombre de pièces de Molière en alexandrin, Racine, voilà. Donc c'est vrai que, notamment si on envisage Racine ou Corneille, ou les poètes du 19e, c'est plutôt très sérieux l'alexandrin, c'est plutôt des choses un peu tragiques. Bon, Molière, lui, il y a des pièces en alexandrin qui sont plutôt drôles, mais c'est vrai que c'est un peu, ça a un peu disparu, enfin... Après, l'idée de personne aujourd'hui de parler en alexandrin, le spectacle évidemment n'est pas, pas crédible une seconde, mais justement c'était un peu amusant d'imaginer cette façon de parler à l'ancienne qu'on remettrait au goût du jour. Mais c'est vrai que ça crée un décalage avec la réalité d'aujourd'hui. Et puis c'est vrai que c'est aussi on peut dire que c'est une sorte de spectacle aussi sur la beauté de la langue française, c'est-à-dire qu'évidemment, sans prendre de spectacle au premier degré, puisqu'on ne va pas se mettre à parler en alexandrin, mais c'est aussi une façon de parler du soin qu'il faudra essayer d'apporter à la langue, qui est parfois quand même un peu malmenée aujourd'hui, sans jouer les anciens combattants, c'est vrai que... donc voilà, c'est un spectacle qui tourne autour aussi de la langue française à travers l'alexandrin.
C'est toi qui as choisi la Maison de la Poésie à Avignon ?
Alors c'est la Maison de la Parole, c'est pas la Maison de la Poésie, c'est deux lieux qui sont assez similaires dans l'esprit, mais c'est la Maison de la Parole. Et oui, en fait, j'avais contacté quelques théâtres, dont celui-là, et en fait, alors ça aurait pu être d'ailleurs aussi la Maison de la Poésie, ça aurait été tout à fait cohérent, mais la Maison de la Parole, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est un lieu qui, comme le nom l'indique, met vraiment l'accent sur le texte. Bon, c'est un peu idiot de dire ça au théâtre, puisque c'est forcément du texte, mais enfin, c'est un lieu où il y a beaucoup de seuls en scène et de lecture, ou parfois de spectacles un peu... Enfin, voilà, qui sont vraiment axés sur le texte lui-même, peut-être plus que sur le jeu, ou... Donc c'était cohérent, parce que je pense qu'à Avignon, même à Paris d'ailleurs, mais c'est toujours important de jouer dans un lieu qui a une certaine cohérence par rapport au contenu du spectacle.
Tout à fait.
On peut jouer n'importe où, mais ça, je pense que pour que ça prenne, il faut trouver un lieu cohérent, et là c'est un lieu tout à fait cohérent. Ça aurait été également tout à fait cohérent à la Maison de la Poésie. Oui. Donc, non, et je suis très heureux, bon, ça s'est extrêmement bien passé. Les gens du théâtre sont en plus extrêmement sympathiques. Le lieu est tout à fait adapté. C'est une petite salle, parce que pour un spectacle comme ça, qui est quand même assez intimiste, et il faut une salle qui n'est pas trop grande. Donc, non, c'est très bien. Et la Comédie Saint-Michel, là où je vais jouer à Paris, c'est pareil, c'est un lieu où il y a pas mal justement de classiques. Il y a pas mal de Molière, de choses un peu classiques, dont certaines justement en vers, etc. Donc proposer un spectacle en alexandrin dans ce lieu-là est également cohérent. Donc, je suis très content, effectivement, d'avoir trouvé des endroits logiques par rapport à ce qu'est le spectacle.
D'accord. C'est toi aussi qui as choisi de ne jouer qu'une fois par semaine ?
Oui. Après, c'est toujours des choix. L'idée était quand même que, en particulier à Paris, je pense que c'est bien que le spectacle puisse s'inscrire un peu dans la durée. Et
d'accord. Donc,
si on veut, alors évidemment, je voulais pas non plus faire trop de dates, c'est toujours un pari quand même, hein, de faire un spectacle et un risque. Donc, en gros, pour faire une quinzaine ou une vingtaine de dates, effectivement, pour permettre au spectacle de s'installer, au bouche à oreille de fonctionner, je pense que c'est mieux de jouer une fois par semaine pendant 3 mois que 3 ou 4 fois par semaine pendant 3 semaines, quoi, en gros.
Oui, tout à fait, complètement.
Voilà l'idée. Et la Comédie Saint-Michel, d'ailleurs, fonctionne comme ça. Tous les spectacles de la Comédie Saint-Michel, en moyenne, jouent 1 ou 2 fois par semaine, pendant plusieurs semaines, justement, pour permettre au spectacle d'avoir le temps de vivre sa vie, en quelque sorte.
Est-ce qu'on retrouve le spectacle en livre papier ?
Alors, en fait, il est pas édité par une maison d'édition. En revanche, à la fin du spectacle, je le propose, je le vends... il y a des gens, effectivement, à Avignon, il y a toujours des gens qui voulaient acheter le texte à la fin. Donc, je le propose, effectivement, à la fin du spectacle. En revanche, il n'est pas diffusé en librairie par une maison d'édition, mais ceux qui ont aimé le spectacle et qui veulent le prolonger par la lecture pourront le faire.
Oui, parce que ça permet d'avoir un complément.
Oui, c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, quand je vais au théâtre, si j'ai bien aimé, il m'arrive assez souvent, si le texte est disponible, de l'acheter. Quand on a aimé, c'est vrai que c'est agréable de relire, oui.
Ok. C'est donc à la Comédie Saint-Michel, ça va être tous les mercredis à 19h45, à partir du 1er avril et jusqu'au 24 juin, et après, tout droit, direction le marathon, les Jeux Olympiques du Théâtre, le Festival d'Avignon, à la Maison de la Parole. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour vous expliquer tout cela, et puis comment on dit dans le spectacle, Toy Toy.
Merci beaucoup.